Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Conspiration des Planches. La Conspiration des Planches, magazine critique des arts de la scène de Radio Campus. On vous suit en été cette année. On vous convient à des rendez-vous un petit peu plus particuliers. On ne parlera pas vraiment des créations en cours, hein, puisque ça voyage un petit peu plus dans les festivals. Mais en tout cas, on vous convie à rencontrer des nouvelles personnalités des théâtres bruxellois. En effet, cette année, pas mal de théâtres changent de direction et de nouveaux visages apparaissent à la tête de ces structures. Et bien c'est l'occasion pour nous cet été de se poser un petit peu et de rencontrer ces personnes, de parler de projets théâtrales avec elles et de l'actualité théâtrale du monde du théâtre actuellement, et de voir ce qui se défend au niveau de la création et ce qu'elles défendront lors de la saison prochaine dans ces nouveaux lieux. Et justement aujourd'hui nous accueillons Peggy Thomas. Bonjour Peggy. Alors, on va mettre le micro, ce sera mieux. Voilà, bonjour Peggy.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour Christian aussi qui est avec nous.
Bonjour.
Voilà. Alors, on reçoit Peggy Thomas qui a été nommée, je crois que c'était en janvier dernier, 2013, nouvelle directrice du Théâtre de la Vie. Alors, Théâtre de la Vie, on va peut-être rappeler un petit peu quel est ce lieu. Un lieu qui est niché à Saint-Just-Naud, créé en 1971 par Herbert Roland et Nicole Dumay. Lieu de création, de résidence, d'accueil aussi, d'expérimentation aussi dans sa deuxième vie, expérimentation théâtrale, musicale, poétique également. On va voir si ce projet va se poursuivre comme tel. Mais on va d'abord demander à Peggy Thomas, eh bien, comment devient-on directrice du Théâtre de la Vie ? Parce que dans notre série d'émissions, on a rencontré des gens comme Éric de Starck, très lié aux Riches Clairs et qui devient directeur des Riches Clairs. Olivier Coyet, très lié aux Poches et qui était aussi, qui travaillait déjà depuis un petit temps aux Poches. Pour vous, Théâtre de la Vie, vous aviez déjà collaboré, mais ce n'était pas forcément évident. Vous y alliez, vous, à la tête du Théâtre de la Vie?
Non, Théâtre de la Vie, j'avais jamais travaillé là-bas. Plus exactement, moi, je suis metteur en scène en communauté française depuis maintenant presque 10 ans, on va dire. Et j'avais déjà été régulièrement dans ce lieu pour voir des spectacles, et je le trouve particulièrement chaleureux, magique. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, on aime beaucoup le Théâtre de la Vie. Et puis, simplement, au mois d'août, l'année dernière, voilà, j'ai vu une annonce qui disait « Le Théâtre de la Vie cherche son nouveau directeur ». Et quelques années auparavant, à titre de test, j'avais déjà déposé une co-candidature au Théâtre Les Tanneurs avec Xavier Schaffers. Et donc, nous n'avions pas, à l'époque, gagné le théâtre des Tanneurs. Mais cette fois-là, je me suis dit, je crois que, d'une part, je vais y aller seule. Et en plus, je crois que ça peut marcher, dans la mesure où c'est un petit théâtre, c'est un petit lieu. Et que aujourd'hui, je suis convaincue que le fait de mettre des jeunes gens à la tête des structures, c'est indispensable.
Alors, on va rappeler quand même un petit peu votre parcours. Vous venez de Quimper et vous avez fait vos études théâtrales au Conservatoire de Mons, la classe de Frédéric Dussène. Vous avez beaucoup travaillé au Théâtre du Méridien notamment, et vous avez mis en scène, vous avez créé la compagnie Les Orgues en 2007, et vous avez mis en scène 3 spectacles sous cette compagnie: Bobby Fischer via Pasadena de Lars Norén, Babel ou le Ballet des Incompatibles, et cette année on a pu vous découvrir aussi votre 3e création de cette compagnie, c'était L'Éveil du Printemps, qu'on a pu voir soit au Théâtre de Namur ou au Rideau de Bruxelles. En 2010, vous avez reçu le prix Jacques Huysmans, et ça vous a permis notamment d'aller travailler avec Joël Pommerat à Paris sur le spectacle Ma Chambre Froide, qu'on a pu voir ici au Théâtre National, et aussi diverses collaborations, notamment avec Thibaut Neve et d'autres artistes. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure d'entrée de génération. Quand vous voyez, peut-être hasard du calendrier ou hasard des choses, cette année, pas mal, en tout cas 4 lieux qui changent de direction, est-ce que vous pensez vraiment qu'on assiste à un changement de génération là ?
Oui, je crois que c'est assez manifeste, notamment aussi par rapport à la distribution concernant les conventions des compagnies, c'est-à-dire que cette année, il y a une dizaine de jeunes metteurs en scène qui se sont vus attribuer une somme annuelle pour leurs activités. Je dirais pas que c'était inespéré, mais en tout cas, on en avait vraiment besoin, notamment par rapport au gros bouleversement qu'on avait vécu en novembre dernier dans la jeune création suite à l'annonce de coupes dans les budgets des aides ponctuelles. Mmh. Aides ponctuelles, pour être un petit peu plus explicite, en fait, nous, les jeunes metteurs en scène, on demande de l'argent au projet. C'est-à-dire que ce qui nous permet d'exister, ce qui nous permet d'émerger, c'est justement ces aides qui sont attribuées en fonction des projets qu'on remet. Mmh. Et donc, là, en novembre, il y avait une très grosse agitation, notamment dans la jeune génération, en disant, mais si on nous coupe ça, ben on va mourir, quoi, et, tout simplement. Et du coup, ben, le paysage, le tissu culturel va vieillir, et on va se retrouver dans une situation que la Belgique connaît bien, puisque ça fait longtemps, justement, qu'on a des problèmes d'émergence.
Oui, il faut rappeler, dans ce que vous dites, que la suppression de l'aide au projet, qu'on appelle dans le jargon le CAP, se montait à 50%, c'est-à-dire une coupure radicale de 50%. Mmh. Sur 1 million, ça faisait 500 000 qui disparaissaient. Et donc, c'était de l'oxygène qui s'envolait.
Mmh. Alors, préparant cette émission, vous disiez justement que cette coupe-son, hein, dans le budget du CAP est tombée en plein moment où vous rédigez justement votre projet pour le Théâtre de la Vie. Et c'était une rencontre d'événements qui vous ont aidé peut-être et qui vous ont conforté dans vos choix pour le Théâtre de la Vie.
Oui, oui, tout à fait. Parce que bon, le projet, ça par contre, il était évident pour moi. C'est-à-dire que si je devenais responsable d'une structure, évidemment que j'allais soutenir ma génération et la jeune génération en général. Ça me paraissait évident que moi, je porte ces valeurs-là. Et au moment où j'étais en train d'écrire ce projet de candidature, eh bien, éclate j'allais dire le scandale. Bah oui, parce que c'était un scandale de se dire qu'on allait comme ça supprimer l'aide dédiée à la jeune création. Et donc, effectivement, ça m'a inspiré et ça m'a, je pense, permis d'y croire encore plus. Parce que quand on a 30... Ben, j'avais 33 ans, donc quand j'étais en train de rédiger mon projet, j'y croyais...
C'était il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'était il y a quelques mois. Mais bon,
L'âge de la mort du Christ.
Oui, c'est ça. Un âge terrible, en fait. Mais je me disais, allez, c'est quand même audacieux. Parce que, effectivement, donc Jean-Michel van den Heijden, qui est le directeur du Théâtre de l'Ancre de Charleroi, si je ne m'abuse, avait été désigné. Il avait 30 ans quand il a eu son poste de directeur à Charleroi. Mais c'est vrai que ça a resté quand même quelque chose d'assez rare. Et puis après, il y a eu Monica Gomez et Fabien, qui donc ont eu la balsamine il y a 2 ans. Donc là aussi, ça commençait à ouvrir le paysage. Mais bon, il n'en demeure pas moins que j'étais quand même pleine de doutes et de prudence. Et finalement, c'est vrai que c'était le bon moment.
Alors, je voudrais quand même vous poser une question. Bon, vous êtes artiste, vous n'êtes pas administratrice, si je puis dire. Oui, vous avez les deux casquettes.
Oui.
Bon. Mais vous partez quand même d'une somme extrêmement modeste, 337 000 euros, si je ne m'abuse, pour gérer tout. C'est vrai que ce n'est pas une structure énorme administrativement parlant. Néanmoins, pour la création, vous n'allez pas rouler sur l'or. Alors, comment allez-vous faire?
Alors, il faut savoir que le Théâtre de la Vie, c'est vrai que c'est une petite subvention, mais... Actiris nous fait un cadeau, c'est-à-dire que Actiris subventionne un certain nombre de postes dans l'institution en tant qu'ASBL. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que grâce à ce soutien-là et grâce à la création des emplois, un certain nombre d'employés du théâtre sont subventionnés, c'est-à-dire que leur salaire est pris en charge par Actiris selon un plan ACS ou Activa. Et donc je le dis parce que c'est vrai que c'est très important pour nous que ces postes existent, parce que ça permet à cette somme de 337 000 euros d'être évidemment injectée, pas entièrement, mais il y a une grande partie de cette somme qui peut du coup aller soutenir les artistes, les projets Et tout ce qui a à voir avec la communication. Enfin, toute la partie, finalement, qui concerne l'artistique peut être... la subvention part là-dedans. Et d'ailleurs, cette subvention, elle est donnée aussi pour ça. Et c'est ça qui est important de défendre aujourd'hui, nous, les responsables de structure. Et je sais bien que ce n'est pas simple. Et plus on a une grosse structure, plus c'est compliqué, semble-t-il. Mais en tout cas, vis-à-vis de la communauté française, qui est l'organisme subventionneur principal, c'est vrai qu'eux nous donnent cet argent pour qu'on fonctionne et pour qu'on fasse vivre l'art.
Alors, est-ce qu'on peut déjà... vous avez dit, bien entendu, vous allez favoriser votre génération. On sait à peu près qui c'est au niveau de votre troupe, qu'on a vu dans au moins trois magnifiques projets. Est-ce que... avec cette enveloppe qui est modeste, mais bon, honorable, disons, même si j'imagine que vous souhaitez qu'elle soit légèrement augmentée, ce qui serait normal, mais budgétairement difficile pour la ministre, à l'intérieur de cette subvention, vous allez pouvoir faire combien de créations et vous allez être obligé de faire combien de reprises qui coûtent moins cher
Alors d'abord, sur le principe de ma programmation, évidemment, il y aura des créations. Et je dirais, il y aura aussi des reprises, pas nécessairement parce que c'est moins cher, mais parce que l'un des gros problèmes de la création théâtrale en communauté française, c'est que les spectacles ne se jouent pas assez.
Ne vivent pas.
C'est-à-dire, voilà, ne vivent pas. On crée des spectacles, on investit de l'argent dans des scénographies, dans des salaires d'artistes, dans des créateurs qui accompagnent la mise en route des spectacles. Et puis après, ça joue 3 fois, 5 fois, 10 fois, allez, 15 fois, ça reste un record. Et donc, c'est face à ça où je me suis dit, ça ne va pas. Il faut aussi promouvoir la culture et l'art en reprogrammant des spectacles. Parce que ce n'est pas vrai qu'un spectacle qui a été joué 10 fois a été vu suffisamment. Donc ça a été vraiment la base de ma candidature. C'est comme ça que j'ai défendu mon projet devant le conseil d'administration du Théâtre de la Vie en disant on va faire de la jeune création, on va faire des créations à proprement parler, donc issues du cru du Théâtre de la Vie, et puis on va aller reprogrammer des spectacles qui auraient été programmés ailleurs en privilégiant les spectacles créés en communauté française, il est vrai, parce qu'on peut avoir envie de faire venir des Français, des Suisses, des Allemands, voilà, mais que dans un premier temps, il y a des urgences, c'est de faire vivre la communauté française, et du coup, voilà comment j'ai construit cette première saison. 4 créations, 6 reprises, et puis finalement, 6 créations, parce que j'ai pas réussi à dire non, voilà. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai craqué sur des projets en disant « c'est trop con, il faut le faire », et du coup, voilà, il y aura 6 créations et 6 reprises.
Il y a un truc aussi pour faire vivre un théâtre aux ambitions, financières modestes, c'est les coproductions. J'imagine que vous n'en êtes peut-être pas encore là, mais ça germe dans votre esprit.
C'est indispensable, en fait. C'est-à-dire qu'une petite structure comme celle-là ne peut pas fonctionner toute seule, ne peut pas produire seule. Elle a besoin de l'aide des compagnies. Donc ça veut dire que les artistes qui seront programmés au Théâtre de la Vie recevront les finances pour subventionner, d'une part, ce qu'on appelle l'exploitation. Ça veut dire que quand les artistes jouent, ils sont rémunérés. Voilà, ça c'est une base autour, on ne dépassera pas ce cap-là, ce qui est parfois malheureusement...
Parce que parfois, bon, pour qu'on soit clair auprès des auditeurs, parfois les artistes ne peuvent être payés que sur base de la billetterie.
Exactement, ouais. Ça se pratique dans beaucoup d'institutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de sous, alors du coup on propose des conditions aux artistes qui ont envie de créer à tout prix, parce que c'est notre problème, à nous les artistes, c'est qu'on vendrait... père et mère pour pouvoir créer nos spectacles. Et du coup, parfois, on accepte des conditions, et ça m'arrive aussi, bien évidemment, d'accepter des conditions qui ne sont presque plus professionnelles, c'est-à-dire où on se partage l'argent de la billetterie. Au Théâtre de la Vie, je n'ai pas envie de pratiquer cette chose-là, parce que je pense que c'est indispensable que même... dans la jeune création, on maintienne un minimum de ce que j'appelle la dignité.
Alors, je vous propose de faire une première pause musicale. On vous a demandé justement, Peggy Thomas, de nous amener quelques choix musicaux. Et justement, après, dans la deuxième partie d'émission, on viendra sur la programmation de cette saison 2013-2014 du Théâtre de la Vie. Sera présent justement dans cette saison Daniel Hélin, qui vient de sortir un nouvel album intitulé Le Crépuscule des Idiots. On en parle juste après avoir écouté le morceau Jésus.
J'aurais voulu être Jésus pour naître entre deux bestiaux, d'une maman vierge, d'un père pas bio, avec des mages tout crépus. J'aurais voulu être Jésus pour trouver une bande de 12 potes et toute l'année être en ribote, toujours sympa mais très connu. J'aurais voulu être Jésus pour marcher sur la mer du Nord, pour être riche sans avoir d'or et tout donner sans être déçu. J'aurais voulu être Jésus pour faire la bière avec la flotte, sortir les clochards de leurs crottes et bousiller des laides statues. Et Jésus, et Jésus. Et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus. J'aurais voulu être Jésus pour raconter de belles histoires qui font que les morts reviennent peinards, que les culs-chattes dansent dans les rues. J'aurais voulu être Jésus pour m'amuser avec Madeleine, consoler le monde de ses peines et rendre heureux les mal foutus. Et Jésus, et Jésus. Et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus. J'aurais voulu être Jésus pour apparaître de temps en temps devant des simples et des braves gens, pour les bénir de leur berlue. J'aurais voulu être Jésus pour qu'on propage mes blasphèmes et que tout le monde se dise je t'aime et fasse l'amour partout tout nu. C'est bien que je sois pas Jésus pour porter les vilaines casseroles, des gens pas bien en black, pas drôle, hystérique et Marie cocu. C'est bien que je sois pas Jésus, j'aime pas la foule, ni les masos, ni être attrait sur les photos, et ça me va pas d'être barbu. Et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus. C'est bien que je sois pas Jésus pour me faire trahir par Judas, avoir le bon Dieu pour papa et des bêtes anges qui me grattent le cul. C'est bien que je sois pas Jésus pour qu'on me cloue sur un poteau et qu'il existe plein de cathos pour vomir leur morale qui pue. Et Jésus, 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 et Jésus. C'est bien que je sois pas Jésus, j'aime mieux chanter l'amour ingrat que l'idéal qui tue des gars au nom d'un gros malentendu. C'est bien que je sois pas Jésus pour qu'on trahisse mes paroles, que des pervers moquent les Mongols en les faisant chanter en tutu. En tutu, 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 en tutu.
Encore un chouette extrait de cet album de Daniel Hélin, un super album, Le Crépuscule des Idiots. Le morceau, c'était Jésus qu'on écoutait à l'instant. On est de retour dans La Conspiration des Planches et ce morceau était un choix musical de Peggy Thomas, nouvelle directrice du Théâtre de la Vie, qui vient parler avec nous justement de son projet théâtral. Elle est avec nous en studio. Et bien justement, Peggy, on va revenir sur cette saison. En l'introduisant d'abord, je disais en introduction de cette émission que le Théâtre de la Vie était aussi connu pour être un lieu d'expérimentation, avait été connu en tout cas pour être un lieu d'expérimentation. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous guider également lors de parce qu'on a beaucoup parlé de jeunes créations, mais on connaît aussi le Théâtre de la Vie pour nous proposer aussi de nombreuses résidences d'artistes qui proposaient au fur et à mesure de leur création des work in progress comme ça. Est-ce que c'est un travail d'accompagnement que vous souhaitez continuer ou pas?
Le terme d'expérimentation, c'est un terme qui me fait un petit peu peur personnellement, dans la mesure où quand on crée un spectacle, on fait de l'expérimentation. Enfin, je veux dire, on se met en danger, on prend des risques, on questionne des choses, et c'est indispensable à n'importe quelle démarche artistique. L'idée de montrer des choses pas finies, l'idée de travailler à l'accompagnement des artistes dans ce sens-là, je crois que ce n'est pas la mission du Théâtre de la Vie tel que moi j'ai envie de le défendre.
Il y a d'autres institutions pour ça.
Absolument. Et puis, en plus, je trouve, si je regarde le Théâtre de la Vie et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Je me dis que c'est un lieu de représentation. C'est vraiment cet outil-là qu'on vient de me confier. C'est un outil où on peut accueillir les spectateurs dans un cadre chaleureux. Il y a 80 places dans la salle, donc ça veut dire que de toute façon, on sera toujours des petits groupes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement précieux aussi. J'adore aller dans une grande salle, voir un grand spectacle qui vient de l'international. Mais j'adore aussi passer une soirée à 80, à 50 ou à 80, où on est tous dans le bar avant, où on est tous dans le bar après, où ça discute, où on est collés les uns aux autres parce que c'est petit, et où on a une sensation d'appartenir à un ensemble, comme ça, et où on est dans une espèce d'échelle humaine, comme ça, de la soirée. Donc, par rapport à l'expérimentation, je crois que simplement, la saison sera composée de spectacles divers et variés, avec des démarches artistiques différentes selon les artistes.
Des exemples ?
Eh bien, des exemples, alors, dans les créations qu'on aura cette année. Donc, c'est Frédéric Dussen qui va ouvrir le bal. Alors, ça paraît contradictoire de dire, tiens, ben, c'est Frédéric Dussen alors que c'est une scène jeune création. Eh bien, pas du tout, parce que Frédéric va créer une adaptation de Ruy Blas avec 4 jeunes comédiens. Voilà. Donc, de toute façon, ça sera la jeunesse qui sera aussi à l'honneur et Victor Hugo, dans son écriture aussi.
C'est ce qui ouvrira la saison.
Ouais, tout à fait. Mmh. J'en suis très, très heureuse. Mmh. Après, on aura un projet un petit peu particulier qui vient de Thibaut Neve et Jessica Gazon, qui sont des complices de longue date, qui m'ont proposé, ils m'ont dit, voilà, il y a Éric Russon, il voudrait enregistrer une émission un peu particulière, un petit peu politiquement incorrecte, enfin, un truc un peu spécial. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse ça chez toi ? J'ai dit, bon, bah, écoute, c'est un peu spécial, mais en même temps, c'est ça aussi le théâtre de la vie, c'est, il ne faut pas que ça soit toujours le même format. Et puis, il y aura Jeanne Ifollet qui va venir faire un solo sur la féminité. Et ça, je pense que ça va être un moment assez phare, assez délicieux, comme ça, de la saison. Cette jeune comédienne que je connais bien, puisqu'on a travaillé ensemble régulièrement, elle avait fait un solo en France il y a quelques années, qui avait fait un carton. Elle n'a malheureusement jamais pu venir le jouer en Belgique. Et donc, elle le regrette, mais c'est comme ça. Et donc, elle va créer un nouveau seul en scène chez nous. Je continue, hein, comme ça, vous avez une
idée. Oui, oui, oui.
Mais par exemple, donc on continue dans les créations. Karine Pontiès donc, reviendra danser seule sur scène, sur la scène du Théâtre de la Vie, en duo. Enfin, ce sera une soirée composée, en tout cas.
Oui, alors par rapport à la danse, je voulais dire que moi, ça me paraissait indispensable aussi qu'il y ait un créneau danse dans la programmation. Je pense que la danse contemporaine est une discipline qui permet toujours au langage scénique de faire des bonds. Et je crois que dans une programmation théâtre, parce que vous le verrez, hein, moi je suis très théâtre, et c'est une programmation qui est très très...
Vous avez fait le ballet des incompatibles.
Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait le ballet des incompatibles.
Il y a une métaphore là qui va dans le sens de ce que vous dites.
Parce que le rapport au mouvement, c'est vraiment... Il y a deux centres, j'ai deux centres d'intérêt principaux, que ce soit dans ma pratique ou dans la programmation que je mets en place. C'est d'abord le rapport à la prise de parole. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui, en termes artistiques ou politiques, est indispensable. Il faut donner la parole aux artistes et il faut que les artistes prennent la parole. C'est subtil, mais c'est les deux. C'est-à-dire que c'est l'un permet l'autre et l'autre permet l'un et ils sont indissociables. Donc ça, c'est une première chose. Et la question du langage, la question de la parole sera au centre de mon mandat au Théâtre de la Vie, je pense. Mais le rapport à la danse contemporaine, je pense, alimente la réflexion, alimente la création. Et Karine, en particulier, est une personne qui, justement, de par sa forme, ses formes, parce que c'est quelqu'un qui travaille, justement, toujours à la remise en question de son langage, et qui, cette fois-ci, vient en plus avec un projet où il est question de prise de parole, de texte. Voilà, je vous laisse la surprise, parce que c'est en cours.
Alors, la surprise des surprises, c'est Pierre Verplank, un de vos acteurs fétiches.
On peut dire
mais
ça.
Mais que vous mettez en... metteur en scène.
Oui, parce que je crois que chaque année, j'en suis même sûre, chaque année, j'aurais envie de promouvoir un jeune. C'est-à-dire vraiment, là, pour le coup, quelqu'un qui n'a pas encore fait de mise en scène ou alors qui balbutie. Enfin, voilà. Donc, travailler à l'émergence, comme on dit dans le jargon théâtral.
Alors, juste pour replacer Pierre Verplanken, hein, pour le replacer, c'est un comédien qu'on connaît sur nos scènes depuis maintenant quelques saisons. On a pu le voir justement cette année dans L'éveil du printemps que vous avez mis en scène. L'année d'avant, c'était, je ne sais plus,
Myriam Sadoui.
Le spectacle de Myriam Sadoui. La nostalgie de l'avenir. Voilà. Et donc, ici, on le retrouve en tant que metteur en scène. Je vous laisse continuer.
Oui, oui, tout à fait. Pierre a déjà fait des essais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, tu m'excuses Pierre, assez marginal dans sa manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sans subvention, qui a créé ici, à l'ULB, à la salle Delvaux, mais qui avait aussi créé dans une cave. C'est un artiste, justement, qui s'accommode difficilement du système. Et alors, évidemment, ça me passionne d'emblée. Et je crois que le fait de lui donner la parole sur cette première saison, pour moi, c'était évident. Et chaque année, j'aurais envie de faire ça, c'est-à-dire de permettre à des jeunes de rentrer dans la programmation.
Alors, une question sur vous, quand même. Que devenez-vous ? Vous avez fait 3 créations magnifiques. Vous avez une petite subvention de 337 000 euros. Vous avez produit des œuvres à plusieurs acteurs. Vous n'allez pas avoir assez pour produire vos propres œuvres au Théâtre de la Vie. Ou alors, il faut demander une augmentation de subvention. Alors, quid ?
Il se trouve que dans ma démarche par rapport au fait d'être responsable du Théâtre de la Vie, j'ai annoncé tout de suite le fait que je ne souhaitais pas associer nécessairement ma pratique au lieu. Tout simplement parce que je pense que pour que ma créativité, on va dire, ou que ma démarche artistique reste ce qu'elle est, reste intègre, mais reste aussi libre, il ne faut pas l'associer à un lieu, il faut qu'elle puisse avoir sa vie. Donc déjà la saison prochaine, je vais créer au Théâtre du Parc. Donc ça, c'est vraiment une très belle opportunité pour moi de pouvoir assumer très très fort d'emblée, de dire voilà, je ne créerai pas au Théâtre de la Vie, je vais aller créer au Théâtre du Parc. Et dans l'avenir, j'espère que j'aurai l'opportunité de continuer ma pratique de metteur en scène sans qu'on se dise « Ah oui, oui, Peggy Thomas, c'est la metteuse en scène du Théâtre de la Vie ». J'ai pas envie de ça pour deux raisons. Parce que je crois que moi, j'ai besoin de cette liberté, de cette autonomie d'artiste, d'une part, et que d'autre part, je veux que les subventions du Théâtre de la Vie servent à soutenir des créateurs de communautés françaises et pas nécessairement moi.
Eh bien, voilà qui est clair et net.
Voilà. Alors, pour être plus complet dans la programmation qui sera disponible évidemment sur le site du Théâtre de la Vie, on rappelle qu'au niveau des reprises, on retrouvera Les Chaises avec Rachid Ben Bouchta également. Le spectacle de Jérôme Neyer, Ante, qui sera présent au Théâtre des Noms aussi cet été du côté d'Avignon. Antoine Lobin reviendra avec ses langues paternelles. Et il y a une création qu'on a oubliée, je crois que c'est celle de Lazare Gousseau aussi, qui...
Oui, tout à fait. Donc Lazare, c'est le dernier arrivé, je dirais.
On avait pu découvrir avec Pilade, hein, c'est ça?
Oui, ouais. Tout à fait. Donc avec Lazare, on discutait dans les années à venir, peut-être, de faire des collaborations. Et puis il me dit, écoute, je suis en train d'écrire un texte, est-ce que je peux t'en lire un morceau? Je dis, ben oui, bien sûr, passe au théâtre. Et donc il est venu au théâtre, et il m'a lu les 35 premières minutes de son texte, comme ça, à froid. C'était évident, je lui ai dit oui tout de suite. J'ai dit on le fait, c'est drôle, j'adore. Enfin, c'est simple, c'est direct. Oui, d'accord, ok, Lazare, c'est parti, on le fait.
Voilà, ça s'appellera
La course.
Voilà. Eh bien, c'est simple, c'est direct, un peu comme Peggy Thomas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne saison, évidemment, pour une bonne première saison.
Merci.
Votre mandat, c'est parti pour combien d'années là?
Si tout va bien, ça sera 5 ans.
Ah, bien, voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. On vous remercie, en tout cas, d'avoir été avec nous dans La Conspiration des Planches. La Conspiration des Planches que vous retrouverez la semaine prochaine également avec un autre rendez-vous. Ce sera Christophe Galland, nouveau directeur des Halles de Schaerbeek, qui viendra présenter également son projet pour cet autre lieu mythique bruxellois. Et évidemment, toutes ces émissions seront podcastables sur notre site www.demandezleprogramme.be. On va se quitter avec un deuxième choix musical de Peggy Thomas, c'est La Sioux. Jeune création aussi, c'est pour ça?
Oui, j'adore Céla Sou et je trouve que justement, elle a 24 ans cette année et que décidément, la Belgique a des talents qu'il faut soutenir.
Merci Peggy Thomas, merci Christian et à très bientôt sur cette même antenne.
This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. Thank you.